Bien, nous entamons la seconde partie de ce séminaire pendant laquelle, je le rappelle, les honorables membres du public pourront participer et poser leurs questions s'ils le désirent. Second axe de réflexion pendant cette seconde heure, faut-il raisonner en termes de gouvernement mixte pour comprendre les régimes politiques contemporains ? Évidemment, la révolution démocratique est passée par là. Elle implique, au moins dans le discours de façade, une négation d'idée de régime mixte. Il n'est plus question d'une quelconque hybridité du pouvoir. Il doit être démocratique ou ne pas être. C'est l'énigme résolue de toutes les constitutions, selon la formule bien connue. Est-ce que, pourtant, la nature démocratique de nos régimes implique la négation de toute prise en compte de la diversité des conditions? Doit-on aller jusqu'à dire, comme certains, que nos régimes contemporains sont secrètement ou discrètement mixtes, au sens où la Constitution prendrait en considération les intérêts économiques qui des entreprises, qui des détenteurs de capital, qui des salariés, sans pour autant que cette prise en considération soit nécessairement explicite? Il y a un certain nombre de mystères dont nous sommes les contemporains, par exemple que des élections parfaitement démocratiques et des majorités parfaitement représentatives votent des lois fiscales qui n'ont pas l'air d'être dans l'intérêt supérieur de la majorité qui a désigné les dites majorités et qui même dans certains cas sont dans l'intérêt d'une extrême minorité, d'un pourcentage infime dans la répartition du revenu. On a même des paradoxes encore plus fascinants, comme le Tea Party américain, qui est ce que j'appellerais une sorte de groupe de plutocrates pauvres. C'est-à-dire quelque chose à la fois d'extrêmement populiste et d'extrêmement attaché à des règles de distribution du revenu qui n'ont pas l'air favorables au plus grand nombre. Est-ce que tout ça est explicable constitutionnellement ou politico-constitutionnellement? Autre manière de poser la question... Est-ce que nos démocraties auraient transposé institutionnellement cette vieille idée du gouvernement mixte, mais en lui enlevant sa consistance sociologique initiale, c'est-à-dire un gouvernement mixte, mais qui n'a plus cette dimension sociologique qu'on a essayé de problématiser tout à l'heure? Quels effets est-ce que ça comporterait? Est-ce qu'il y a un tempérament de la démocratie? Est-ce qu'il y a une confiscation de la démocratie? On pourrait comprendre comme cela que parfois le discours sur le gouvernement mixte soit un discours du radicalisme démocratique, des tenants de la démocratie radicale. Faut-il, pour prendre des exemples concrets, interpréter le régime américain ou le régime britannique contemporain comme des formes du gouvernement mixte institutionnel qui cohabiteraient avec le principe démocratique? Alors, c'est peut-être le moment... avec les encouragements de Rana Levy dans la première heure, de reparler de Thomas Hobbes, qui est avec Tocqueville un de ceux dans nos lectures qui nie tout à fait ouvertement et de manière frontale la possibilité même du gouvernement mixte. On peut se demander très franchement, et j'imagine, j'accepte tout à fait qu'il y ait des réponses divergentes, si le fédéraliste numéro 10 est un texte sur le gouvernement mixte, mais si ça n'est pas, sur quoi, de quoi est-ce que ça parle? De quoi nous parle ce texte sur la manière de modérer le système des factions par le gouvernement représentatif et la différence qu'il établit entre république et démocratie? Et puis, je ne sais pas comment dire ça en restant neutre, mais bon, texte étrange du début de notre république 5e du nom, l'article de Georges Burdeau, qui nous fait savoir que la grande nouveauté de cette constitution de 1958, c'est le rétablissement de l'État au rang des forces animatrices de la vie politique, au point que l'État est un pouvoir dans la constitution. Qu'est-ce que ça, si je puis dire, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Comment comprendre cette formule? Parce qu'au fond, ce n'est pas un pouvoir au sens de la théorie constitutionnelle, ce n'est pas un pouvoir organe, ce n'est pas véritablement un pouvoir fonction. C'est autre chose que cela, et j'ai eu l'impression en le disant, mais c'est encore une fois surtout pour lancer la discussion que je dis ça, qu'il y avait un début très ambitieux théoriquement dans cet article et une fin très politique, pour ne pas dire un petit peu contextuelle et partisane, c'est-à-dire que comme on comme apparemment le disait très souvent un membre du premier constitutionnel, du premier conseil constitutionnel, Jean Burdeau semble dire oui à De Gaulle, oui à De Gaulle. C'est un texte
un peu de
ralliement, mais voilà, enfin, on peut encore une fois en donner une autre lecture. Ce qui, je pose aussi une question pour faire un lien entre que tout le monde ne verra peut-être pas et qui n'existe peut-être pas entre Tocqueville et Georges Burdeau, en ce sens que Tocqueville dit quelque part, dit page 26 de nos lectures, qu'il n'y a pas de gouvernement mixte parce que dans chaque société il y a un principe d'action qui domine tous les autres. Est-ce que ce principe d'action, c'est pas ça que vise Burdeau quand il parle du pouvoir d'État? Parce qu'au fond c'est pas le même concept qui est à l'œuvre, parce que le pouvoir d'État de Burdeau n'est pas ce principe d'action qui animerait la Ve République. Question posée et pour laquelle j'attends avec avidité les réponses que les membres de la discussion.
Tout ça.
S'il faut que quelqu'un commence, je peux commencer, et puis la discussion partira sûrement sur des voies plus droites. Est-ce que on peut raisonner en termes de gouvernement mixte sans dimension sociologique? On a vu tout à l'heure que c'était difficile d'identifier cette dimension sociologique, parce qu'on voit bien que c'est moins simple qu'il n'y paraissait peut-être au premier abord. J'ai l'impression que du point de vue de l'organisation constitutionnelle, ça n'est quasiment pas possible de formaliser cela. Et pourtant, si on dépasse certaines formes, encore qu'il y ait des petites institutionnalisations, il y a tout de même, me semble-t-il, une prise en compte par les institutions modernes d'autre chose que les individus tous égaux. Il y a une dimension un peu corporatiste. Je pense à tout ce qui est système de partenariat social. En France, ça a certaines formes. Dans d'autres pays, ça a des formes peut-être encore plus organisées. Je pense à l'Autriche, qui a des chambres de représentation des métiers. Enfin, tout ça s'inscrit dans un processus qui est assez formalisé, qui a joué un très grand rôle dans la stabilité de la Deuxième République autrichienne, mais c'est un exemple un peu presque paroxystique, qui est peut-être déjà moins fort aujourd'hui qu'il y a encore 30 ans ou 40 ans. Mais enfin, le budget de la sécurité sociale, le rôle des partenaires sociaux, même en France, c'est quelque chose qui tient compte du peuple organisé en travailleurs et en employeurs. Je pense aussi aux plans parfois réalisés, et puis en général, ça s'est quand même pas mal ensablé, de chambres corporatistes ou du néocorporatisme. L'invention du Conseil économique, puis Conseil économique et social, c'est un avatar de l'idée que la représentation politique classique par les chambres parlementaires habituelles ne pouvait pas suffire. Et donc c'est une obsession qu'on trouve à tout moment de l'époque contemporaine, on va dire, de la fin du 19e siècle ou à différentes réalisations au 20e siècle. Quand on voit ce qu'est le Conseil économique, social et environnemental maintenant, c'est très important. Ce sont des formes assez modestes et assez, en tout cas en France, qui ne semblent pas donner beaucoup de fruits. Mais enfin, au fond, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher en partie en dehors de l'organisation constitutionnelle? Il y a une sorte d'idée de gouvernement mixte peut-être, mais qui n'emprunte pas les canaux formels de l'organisation constitutionnelle, ou très peu, parce que c'est probablement impossible, puisqu'officiellement, l'individu, tous égaux, et on ne fait pas de distinction entre les classes et les groupes.
Quand on voit la place qu'accorde Kelsen à ces idées de représentation corporative, de chambre corporative, dans la démocratie, sa nature, ses valeurs, et puisque c'est devenu dans le constitutionnalisme contemporain, peut-être que le cas de l'Autriche est particulier à cet égard, mais dans les grandes démocraties, ça n'a pas prospéré, les tentatives de représentation corporative ou professionnelle.
En France, c'est identifié à l'ancien régime, c'est identifié à la différence. Je voulais donner. Il y a beaucoup de questions très intéressantes et du coup, la tête ronfle au fur et à mesure qu'elles sont posées, mais quand même, d'abord, on peut tenter de donner une réponse, parce que c'est une vraie question. Pourquoi même le mot de gouvernement mixte ou de régime mixte est disparu de notre vocabulaire? Pas qu'une réponse un peu sociopolitique, je dirais, serait. Il va à l'encontre de la pente naturelle des démocraties modernes. Gouvernement mixte ou régime mixte suppose une certaine forme de différence, d'abord d'hiérarchie de différence. Et nos sociétés tolèrent de moins en moins la différence et encore moins la hiérarchie. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les notions corporatistes en France ont toujours une connotation très négative plus qu'ailleurs, c'est lié à l'abolition des privilèges, à l'idée que le particularisme suppose des privilèges. Nous vivons dans une situation très étrange parce que d'une part, il y a une telle revendication de plus en plus véhément, parfois virulente, de la différence, je dirais dans la sphère sociale, et par ailleurs une revendication de plus en plus violente d'égalité, le refus de toute forme de différence qui est dénoncée comme corporatiste. Donc le mot est devenu presque suspect, ou en tout cas inadapté à la pente naturelle de la démocratie. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, Denis, dans les questions que vous avez posées au départ, que j'avais en vous écoutant au bout des lèvres, qui est, à mon avis, une question, il me semble que c'est une question qui s'applique quasiment à toutes nos démocraties, c'est la question de l'oligarchie. C'est-à-dire, on a le sentiment, quel que soit le système, le mode électoral, et quel que soit l'observatoire politique qu'on regarde, qu'il y a une véritable dérive naturelle oligarchique de la démocratie. Et c'est elle qui rallie contre elle, de temps en temps, des réactions épidermiques ou des réactions qu'on a parfois du mal à pénétrer, comme celle du Tea Party qui conjugue ou rallie des gens dont les intérêts a priori ne sont pas les mêmes, dont les revendications ne peuvent être les mêmes, et dont le seul trait commun, c'est la dénonciation des oligarchies. Et ce n'est pas, le problème de l'oligarchie n'est pas seulement dont, il ne faut pas le voir uniquement comme objet de dénonciation dont il faut comprendre les raisons, c'est un phénomène politique évident. Par exemple, en France, il est évident, il y a une sorte d'oligarchie politique, et d'ailleurs, quand on regarde le personnel politique, France, aux États-Unis, en Israël, les systèmes électoraux sont différents. Ils se ressemblent. Ils sont de moins en moins différents. Ils sont de plus en plus différents, je dirais, de ceux qui sont censés être leurs. Je crois que le problème central. Et Tocqueville, d'une certaine manière, le pointe. Déjà dans la démocratie en Amérique, il me semble qu'un des problème majeur de la démocratie contemporaine, c'est le problème oligarchique. Mais la réaction épidermique que le phénomène oligarchique dans les démocraties contemporaines suscite aide à expliquer pourquoi toute notion de gouvernement mixte, de régime mixte, ne peut plus avoir, je dirais. Vous avez, dans l'interruption, vous avez posé une question vraiment importante. Et à partir de quel moment et pourquoi un mot n'est plus prononçable, perd toute pertinence ou devient presque problématique. Je crois que le gouvernement mixte est une des victimes de nos passions démocratiques.
Est-ce qu'en allant dans en faisant du constitutionnalisme fiction, en poussant la ligne, enfin, comment dire, en continuant la trajectoire du multiculturalisme ou des réflexions sur les genders, etc., on n'aura pas un jour des revendications de représentation constitutionnelle de ces particulières.
On les a déjà.
On les a déjà pas mal, dans certains pays.
Oui, oui. La parité, d'une certaine manière.
Au Canada.
Oui. Mais la parité, j'ai rarement vu la parité revendiquée. Aux États-Unis, je suis pas sûr. Mais ici, revendiquer en termes de droit et d'égalité, mais en termes de remède pratiquement mécanique à une défaillance.
Non, la parité en France, ça a été un coup de génie de l'esprit français. C'est que le Conseil constitutionnel avait écarté l'idée de quotas. Et la parité dans l'esprit des gens qui l'ont lancée, notamment Blandine Criazel, qui a joué un certain rôle là-dedans, s'était fondée sur un double raisonnement qui paraît un double sophisme. C'est que, premièrement, ce n'était pas un quota puisque c'était 50%, ce qui est un peu bizarre, et que d'autre part, ce n'était pas une représentation de catégorie puisque on est vieux, jeune à certains moments. Et puis les races, ça n'existe pas, etc. Tandis qu'en revanche, l'humanité est constitutionnellement composée d'hommes et de femmes, si bien que la parité, c'était un objectif universaliste, parfaitement descriptible dans le système français, et qui d'ailleurs devait permettre, et ça a d'ailleurs effectivement permis ça, de promouvoir quelque chose pour les femmes qu'on n'étendrait pas aux autres minorités, puisque ce n'était pas une question de minorité. D'ailleurs, concrètement, la parité fonctionne dans le Parti socialiste comme obstacle principal à ce qu'on appelle maintenant la diversité. Pour des raisons sociologiques assez simples, je peux vous faire le dessin si vous voulez, mais je voulais dire autre chose, si vous voulez bien, important de Hobbes, effectivement, qui était important, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a deux morts du régime mixte, en fait. Il y en a une avant et l'autre avec la démocratie. Avant la démocratie, c'est tout simplement, me semble-t-il, les théories de la souveraineté qui sont construites par principe contre ça. C'est déjà le cas chez Bodin, parce que le raisonnement de Bodin et de Hobbes, c'est que, quel que soit le régime, il y a toujours un souverain en dernière instance. Ça peut être le roi, ça peut être une république aristocratique, une démocratie, mais de toute manière, il y a un souverain, donc il n'y a pas de régime mixte. Il y a simplement un souverain qui ensuite reconnaît des compétences de nature consultative, etc. Et puis d'autre part, c'est lié aussi au refus de distinguer la forme juste ou modérée de la forme légitime. C'est très présent, c'est l'argument de Hobbes, d'ailleurs, c'est que la tyrannie, c'est la manière dont les gens qui n'aiment pas la monarchie appellent la monarchie. Et l'argument est repris par Voltaire dans ses critiques de Montesquieu. Donc il y a toute une histoire antérieure à la démocratie qui est liée à la matrice de l'État souverain modèle français, me semble-t-il. Ce qui, effectivement, explique, est une des raisons pour lesquelles les Français ont... On ne pense pas facilement en termes de régime mixte, c'est pas dans le génie national. Mais à partir du moment où on entre dans la démocratie, là je crois qu'il y a autre chose qu'on voit quand même bien, me semble-t-il, dans l'histoire américaine. Moi je me situe totalement de ce point de vue-là dans la lignée de Wood, je trouve que ces explications sont très claires. C'est qu'il y a un modèle aristocratique que tout le monde connaît, ou alors appelons-le aristocratique autrement, mais enfin, qui est ce qui a fini par être l'interprétation de la constitution anglaise. Qui est présent chez John Adams et où on a l'idée que la République américaine, ça va être un bon régime mixte parce qu'il y a un président, c'est un roi, et il y a les deux chambres, et puis le Sénat, il est plus aristocratique que la Chambre des représentants, etc. Mais moi, je crois, là Wood le montre à mon avis assez bien, que c'est ce qui est battu curieusement en 87. Contre une alliance, d'ailleurs, parce que les défenseurs de l'ancien régime mixte, si j'ose dire, c'est comme toujours une coalition de la droite et de la gauche. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des Adamsiens, qui veulent qu'il y ait de l'aristocratie au niveau fédéral, et puis il y a des gens qui veulent des républiques hamiltoniennes au niveau des États, comme Patrick Henry, qui n'est pas le célèbre assassin d'enfants, mais un antifédéraliste tout aussi connu, enfin qui devrait être encore plus connu. Et ça, je crois, et là, Denis, moi je pense que justement, le fédéraliste dit, c'est le contraire du régime mixte. Parce que c'est le principe qui est d'ailleurs repris dans le fédéralisme 51, c'est qu'on n'a pas des factions qui seraient stables entre lesquelles on serait, qui correspondraient à des masses spirituelles, comme dirait Hegel dans la philosophie de l'esprit. Que c'est d'ailleurs, c'est pas la société, c'est pas les forces sociales, c'est les ordres, le truc qui est présupposé. C'est pas, même si ça se dit pas pareil en français, en anglais. Et là, justement, l'idée, c'est qu'il faut multiplier les factions sur le modèle de la diversité religieuse, qui est la source de la liberté américaine, texte d'ailleurs qui reprend un passage des lettres anglaises de Voltaire, dans lequel Voltaire disait déjà, si vous avez une religion dominante, elle opprimera tout le monde, si vous en avez deux, elles se font la guerre, il en faut donc plusieurs, et le modèle parfait, qui correspondait assez bien à la constitution américaine aussi, c'est la bourse de Londres, où le puritain, l'anglican, le juif, le mahométan, etc., coexistent, parce que la seule hérésie, c'est la banqueroute. Je crois qu'on a quand même quelque chose. Alors, cela dit, si je peux me permettre, il y a toujours en Amérique des gens qui sont, qui se croient adamsiens, si vous voulez. J'ai discuté un jour avec Paul Rahe, par exemple, qui était venu ici il y a quelques années à mon invitation, et à qui je tenais un raisonnement woodien, si je tiens normal, enfin de Gordon Wood, et qui m'a dit non, pas du tout, vous vous trompez, le Sénat c'est une institution aristocratique. Alors je lui ai demandé à quoi vous voyez ça, il m'a dit au fait qu'ils sont beaucoup plus riches que les représentants en général. Donc il y a quand même un modèle oligarchique qui est présent, avec peut-être quand même des poussées importantes, puisque la récente décision de la Cour suprême là, sur la limitation du pouvoir, enfin la non-limitation des dépenses électorales et des dépenses des entreprises en matière électorale, je ne sais pas si vous avez lu l'article qu'a publié Dworkin dans la New York Review of Books, qui est inhabituellement bon, et enfin pour une fois il dit quelque chose de cogent, je trouve, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une rupture avec une certaine tradition constitutionnelle explicite américaine où les sujets du premier amendement ce sont les individus, et où là il y a l'idée que les entreprises, les corporates doivent devenir, et ça moi j'ai souvent rencontré quand même dans une certaine droite américaine, l'idée que le corporate, c'est vachement bien. C'est le big corporate, le big business, avec une tête de dignité. Parce que l'Amérique, évidemment, vous parliez des plutocrates populaires. L'Amérique, c'est le seul pays que je connaisse, effectivement, où il y a des gens qui aiment les grandes entreprises, qui aiment la richesse, la puissance, à condition qu'elle soit liée au business. C'est une donnée importante. Alors en France, pour reprendre les remarques d'Armel, si je voulais dire deux mots là-dessus, on l'a longtemps dit quand même dans la sociologie politique qui était à l'époque où elle savait à peu près ce qu'elle disait. Ce qu'on appelle le néo-corporatisme, par exemple, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on reconnaissait qu'avec les institutions de négociation sociale, même en Amérique, il y avait la FL-CIO, tout ça a été décrit dans des termes qui montrent effectivement que la notion de gouvernement mixte a un sens dans la description des régimes politiques, mais pas probablement pas du droit. Alors, par ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de cette idée qui avait été défendue par Emmanuel Todd, mais qui néanmoins me paraît vraie, selon laquelle finalement la différence entre la France, enfin l'Allemagne et l'Autriche, mais l'Allemagne aussi, c'est un pays où il y a toujours des chaînes de...
En Autriche et en
Allemagne aussi, la classe ouvrière. Si, il y a une chose où on le voit, c'est les systèmes scolaires tels qu'ils ont fonctionné. Bon, je sais que ça change depuis une dizaine d'années, mais enfin, si vous voulez, l'Allemagne, c'est un pays où les gens ont accepté, jusqu'à une date très récente, le maintien de systèmes scolaires dans lequel il y avait un système secondaire extrêmement élitiste qui recrutait au niveau de notre actuel sixième. Ils n'ont pas fait la réforme des collèges, etc. Mais en contrepartie, il y avait des écoles techniques ouvertes aux gens qui venaient du secteur ouvrier et qui conduisaient à des carrières complètes d'ingénieurs. Ça, si vous voulez, c'est un côté stand quand même. C'est la classe ouvrière des social-démocraties. D'ailleurs, dans les théoriciens contemporains du régime mixte, il y a le Bernard Manin et Bergugnou, dans leur livre sur la social-démocratie, qui parle de la social-démocratie comme le régime du compromis institutionnalisé, où il y a une classe ouvrière qui est bien distincte du reste, etc. Et c'est lié, me semble-t-il, à ça. Alors en France, évidemment, ça n'existe guère. Le pouvoir d'État, je crois que ça vient évidemment de Gaulle lui-même. C'est une théorie gaulliste du gaullisme. C'est la formule, vous savez, sur Albert Lebrun. Dans les mémoires de guerre, de Gaulle dit Albert Lebrun que c'était un excellent homme à qui il n'avait manqué que deux choses pour être un chef d'État, qu'il fût un chef et qu'il eût un État. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que l'idée, effectivement, là, c'est que la nécessité militaire toujours possible, même si elle n'est pas toujours permanente, oblige à recréer le pouvoir d'État qui est... Alors, ce qui n'est pas totalement absurde quand même, c'est qu'il y a, une espèce de continuité de l'État en France entre l'Ancien Régime et la Révolution. Je crois que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y avait un retour de cet État qui avait été affaibli. Mais en même temps, la cinquième, est-ce qu'elle n'est pas régime mixte en un autre sens? D'ailleurs, c'est qu'il y a, bon, il y a le suffrage universel, il y a le, y a un chef d'État extrêmement puissant. Puis à l'époque où ça marchait, il y avait l'ENA et les grands corps, qui étaient quand même une espèce d'aristocratie. Aristocratique d'oligarchie, là, d'ailleurs. Et il y a une dégradation. Un dernier mot, d'ailleurs, dans les autres théoriciens intéressants, il y a malheureusement oublié, il y a mon ami Jean-Louis William, qui dit des choses très intéressantes dans le contexte du système politique sur la permanence et la validité des catégories classiques. Bon, excusez-moi, j'étais trop. Mais c'est parce que tout ce qui était dit était suggestif.
Mais voilà. Juste un mot sur ce que vous disiez à propos des deux morts du gouvernement mixte. J'étais frappé en lisant le texte, le petit extrait de Ludekiwe et de Hobbes. Le fait qu'il est obligé de s'y reprendre à deux fois, ou plutôt qu'il y a une sorte de mauvaise conscience qui est dans la remarque. Il lui dit, dans le corps du texte, il dénonce l'impossibilité qu'il y ait un régime mixte parce qu'il ne peut pas y avoir des monarchies mêlées, dit-il, et que la souveraineté ne peut pas être divisée. Et puis la remarque ajoute, presque tous avouent que l'autorité suprême ne doit pas être divisée, mais pensent qu'il la faut modérer et lui donner quelques limites. Cela va bien, rajoute Hobbes, mais s'ils entendent quelques divisions par ce tempérament qu'ils conseillent, c'est mal à propos qu'ils veulent user de la distinction. C'est-à-dire, au fond, il n'est pas complètement capable d'évincer d'un seul tenant les idées de modération ou de limitation, même s'il veut d'une souveraineté indivise. Il y a un moment de mauvaise conscience là qui, à mon avis, a quelque chose qui explique les passages bizarres dans le Léviathan où la fonction de modération ou la fonction d'équilibrage est jouée par la loi naturelle, c'est-à-dire par le vocabulaire de l'office du souverain, par le vocabulaire des devoirs du souverain, par le vocabulaire de la finalité de l'État, qui est à peu près incompréhensible si on est un théoricien pur et dur de la souveraineté, et qui est néanmoins là chez Hobbes de manière un peu gênante, un peu difficile à comprendre, mais on voit là la sorte de gêne que n'a absolument pas, par exemple, Tocqueville. Au fond, ils ont en commun de considérer que le gouvernement mixte, c'est impossible, mais Tocqueville le dit avec une radicalité, une fermeté absolument sans mélange. Là où il y a chez le premier des deux assassins du gouvernement mixte...
Je peux dire un mot sur Tocqueville,
vous en prie.
Si vous voulez bien, c'est parce que dans ce texte, en fait, il ne faut pas oublier qu'il est dans le chapitre sur la tyrannie de la majorité. Et là, c'est un texte tout à fait génial. Mais où ce dont Tocqueville part, c'est que ce qu'il veut montrer, c'est que tous les vieux trucs pour limiter la souveraineté populaire ne servent à rien, vont échouer. Et il prend justement la constitution américaine comme système de checks and balances parfait, etc., qui normalement devrait nous garantir la liberté, puisqu'il y a tout ce qu'il faut, il y a des checks and balances, il y a le Sénat, il y a... Le pouvoir exécutif a une sphère bien définie, donc on n'est pas dans la l'autocratie, etc., etc. Et il montre que ça ne marchera pas, parce que de toute manière, quel que soit le niveau où on parle, à partir du moment où on a un fait majoritaire absolument décidé et déterminé, ça l'emportera de toutes les façons. Et ça l'emportera de toutes les façons parce que c'est lié à la puissance de l'opinion. Laquelle puissance de l'opinion ? Est lié au fait au déclin de l'autorité ou au déclin des notables, c'est parce que comme il n'y a plus de gens qu'on écoute en priorité, on se rallie plus facilement à l'opinion commune. C'est très très profond, c'est tout à fait vrai, à mon avis. Je ne suis pas sûr que Carlos soit d'accord, mais c'est très cohérent et c'est vraiment, je crois, lié à cette idée. C'est un truc qui est désespérant pour les libéraux, d'ailleurs. C'est le but, d'ailleurs, c'est qu'il veut. Il veut désespérer ses amis politiques en leur disant « vos trucs traditionnels ne marcheront pas ». Alors il faut essayer de faire autre chose, du coup il faut éduquer la démocratie, etc. Oui, mais les associations non plus, ça ne marche pas, puisque les associations, elles peuvent aller tout dans le même sens, et on le voit tous les jours.
Juste quelques mots. C'est vrai que le régime mixte est mort deux fois. Une mort théorique, c'est la souveraineté. Et une mort pratique, c'est l'état social d'égalité. Pour autant, on voit ressurgir cette notion. Je pense notamment aux travaux de Marcel Gauchet, dans une configuration un petit peu différente de la configuration classique qui nous occupe aujourd'hui, ou encore, et plus particulièrement, pour quelqu'un qui s'est intéressé aux arrangements institutionnels, à Bernard Manin, qui présente le gouvernement représentatif comme une forme de régime mixte et qui rencontre, je crois,
d'une certaine forme d'insatisfaction qu'on a tous à considérer que la démocratie est un régime simple. Donc à la fois, on a dressé l'acte de décès du régime mixte, mais en même temps, elle reste une notion relativement pertinente. On a parlé tout à l'heure du Conseil économique, social et environnemental. C'est tout à fait vrai, et moi je considère que le référendum de 1969 sur la fusion du Sénat avec ce Conseil économique et social est une résurgence de l'idée de mixtion. Et s'il faut donner une représentation d'autres intérêts que les droits individuels, on peut considérer que ce sont les droits collectifs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part les droits individuels? Ça peut être les droits collectifs. J'ai retrouvé une formule de Dugy: tout organe politique qui ne représente pas un élément social ayant une force réelle est un organe inutile et sans valeur. Même dans la doctrine constitutionnelle du début 20e, on a cette idée quand même qu'il faut qu'il y ait des forces sociales derrière les organes politiques pour faire fonctionner efficacement ce régime politique. Alors Dugy, évidemment, il pense à l'élément syndical, il veut une représentation des syndicats, mais derrière la fusion du Sénat et du Conseil économique et social, je pense qu'il y a, certainement pas de façon consciente, mais quand même, l'idée d'une reconfiguration du régime mixte dans des sociétés démocratiques, parce que c'est ça dont il s'agit. On ne peut plus faire reposer si tous les organes doivent reposer sur une légitimité démocratique, évidemment, le régime mixte n'a plus lieu d'être dans les formes démocratiques. Un mot sur les États-Unis, vous avez dit c'est le contraire du régime mixte. Oui, en un sens, c'est le contraire, mais le régime mixte a quand même alimenté beaucoup les débats des
constituants. J'ai dit le fédéraliste 10.
Oui, le fédéraliste 10. Mais de façon générale, c'est vrai que les constituants américains s'écartent du régime mixte, alors que beaucoup considèrent sur des modes plus ou moins profonds, puisque beaucoup ont des conceptions un peu éthérées. C'est vrai que le régime mixte est difficile à appréhender, on l'a vu aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins qu'il reste un idéal qui va alimenter les débats des constituants, et on peut lire certains arrangements institutionnels de la Constitution américaine comme une reconfiguration dans un cadre républicain de l'idéal du régime mixte, parce qu'en définitive, la désignation du président aux États-Unis fait reposer le few, one et many, c'est-à-dire le peuple désigne des grands électeurs qui, dans la pensée des constituants américains, sont l'aristocratie naturelle du pays, c'est absolument certain, qui vont désigner la tête, c'est-à-dire le one, la monarchie. Il y a cette idée de cette reconfiguration, mais on trouve toujours cette répartition entre le petit nombre, le grand nombre et l'un. Donc c'est vrai que...
C'est surtout, puis c'est aussi le fait que les États sont des corps.
Oui.
Parce que c'est... Les grands électeurs, c'est...
J'ai beaucoup de mal à voir la mixture dans les configurations contemporaines qu'il y a un désir. Quand, tant qu'il y avait une classe ouvrière, qu'il y avait des syndicats puissants, ou encore au moins fantasmer sur une forme ou une reconfiguration du régime mixte, aujourd'hui le régime mixte ou une idée d'un régime mixte peut s'appuyer sur quoi ? Je serai très, très court sur la différence des identités, c'est-à-dire les revendications identitaires. Je ne vois pas très bien, je connais ce passage, ce vœu de Bernard Nana et de Bergogneau d'imaginer une sorte de forme adaptée du régime mixte. J'avoue que je ne la vois pas très clairement. Juste un mot à propos du fédéralisme 10, une des raisons pour lesquelles il est très difficile de l'apparenter à une idée de régime mixte, c'est que ce qui oppose les gens, ce dont parle Madison, c'est des intérêts. C'est des intérêts qui regroupent des gens, et les intérêts sont changeants. C'est beaucoup moins leur identité sociale. Mais je voudrais vraiment d'un mot rendre justice à la question que Denis nous a posée au début de cette deuxième partie. Y a-t-il des formes de régime mixte qu'on peut imaginer depuis la première révolution de la souveraineté? D'une certaine manière, la théorie constitutionnelle de Montesquieu, c'est une théorie de régime mixte. C'est un régime mixte où des institutions et des groupes sociaux ont un rôle constituant, une fonction constitutionnelle, où les corporations, où les identités professionnelles jouent un rôle politique et constitutionnel. Dans une, je dirais, définition un peu souple de l'idée de régime mixte, c'est une forme de régime mixte. Et le dernier mot à propos de Hobbes ou du remords de Hobbes dans la note, je voudrais simplement rappeler que tous les théoriciens de l'absolutisme que j'ai étudiés sont aussi des théoriciens de la modération. Et leur problème, c'est d'introduire dans l'absolutisme une forme de modération qui ne passe pas par les corps sociaux et des institutions établies. Et de ce point de vue, on peut dire que Hobbes, comme Bodin d'ailleurs, est un absolutiste pur et dur, sans remords, mais qui, justement, qui est en même temps un théoricien de la modération à laquelle, en faveur de laquelle il mobilise la loi. La loi, c'est le seul, je dirais, instrument disponible pour un penseur comme Hobbes pour introduire une idée de la modération dans son idée absolue.
Je vous donne la parole une seconde et puis je la donne à Carlos après. Sur cette question de la possibilité d'avoir des gouvernements mixtes dans l'époque contemporaine, je me demande s'il ne peut pas y avoir sinon des gouvernements mixtes, du moins des circonstances de gouvernement ou de gouvernementalité mixte. Les corporations, pourquoi ça ne marche pas, et puis le régime participatif de De Gaulle, ce genre de choses ont été des échecs. Si on remonte un petit peu haut, c'est grosso modo parce que dans la société libérale, la répartition de la richesse est trop fluctuante et qu'on ne peut pas fixer dans des groupes sociaux déterminés. On ne peut pas dire il y a telle corporation. Le problème n'est pas qu'il y ait des professions ou qu'il y ait des groupes sociaux, etc. Le problème, c'est où est la richesse. Et la société libérale, c'est la société dans laquelle ça peut changer tout le temps, et ça change dans la moyenne durée assez significativement. Il y a des gens qui perdent de l'argent, il y a des gens qui en gagnent, et ça, c'est difficile à représenter constitutionnellement. Et somme toute, le système représentatif classique est une bonne photographie. C'est-à-dire, ça marche pas si mal. Le système représentatif classique marche pas si mal dans une société libérale avec une forte fluctuation de la distribution du revenu. Mais maintenant, si précisément, comme ça a quand même l'air d'être le cas depuis la dernière crise financière, le problème économique de la répartition du revenu et des équilibres entre revenus du travail et revenus du patrimoine devient politiquement décisif, devient politiquement critique. Je me demande si on n'ira pas vers des situations où il y aura un poids accru de l'économique intégrée socialement, de l'économique implantée socialement, si vous voulez, des intérêts économiques au sein de la société sur le constitutionnel. Et je me demande si on n'y arrive pas dans certaines circonstances, parce qu'en même temps, on a cette question qui devient quand même, la question fiscale qui devient problématique, c'est-à-dire est-ce qu'on... On fait bien le partage entre revenus du patrimoine, revenus du travail. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse inégalité à la fois à la naissance du revenu et puis ensuite dans la manière dont l'État fiscalise tout ça? Et qu'on a dans le même temps, dans un pays comme la France, une baisse d'intensité de la culture anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire dans les syndicats eux-mêmes. On se retrouve dans des situations comme 2007-2010, où les vrais représentants d'un certain nombre de positions politiques significatives, c'était pas le Parti Socialiste, c'était les trois syndicats, c'était les trois grands syndicats. C'était pas envisageable il y a 30 ou il y a 40 ans, pour différentes raisons, et notamment parce qu'il y avait cette culture de syndicalisme révolutionnaire et de non-réformisme, notamment au sein de la CGT. Moi, j'avais été très frappé de voir... C'était en 2009, quelque chose comme ça, un moment où le Parti Socialiste était incapable d'avoir une voix, d'avoir un discours qui était lisible et audible. Les gens qui ont exprimé certains points de vue politiques, pas uniquement syndicaux, mais réellement politiques, c'était les représentants des grands syndicats. Et je me demande si ça, c'était pas quelque chose qui était circonstanciellement interprétable en termes de gouvernement mixte. Il y avait des forces sociales représentant des intérêts ou des coins de la société qui ont dit quelque chose politiquement, et c'est vrai ce que tu disais, au fond, c'est aussi ce qu'on appelle... ils ont un rôle représentatif dans la sécurité sociale, dans la gestion des assédiques et de l'unédic, etc. Ils ne sont pas complètement désinstitutionnalisés, tous ces gens-là. Carlos.
Oui, je pense que y a deux façons, au fond, assez différentes de poser la question du gouvernement mixte dans les démocraties contemporaines. La première façon, c'est de se demander est-ce qu'il peut y avoir une présence institutionnelle stable de forces sociales dans un régime démocratique. La réponse est évidemment non, pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Je crois qu'il y a un autre angle sous lequel on peut aborder la question, un angle tout à fait différent, qui est plutôt est-ce que la modernisation progressive des régimes mixtes, par exemple en Angleterre, a pas conduit progressivement à ce que les figures la figure du monarque, la figure du petit nombre, la figure du grand nombre, se transpose à quelque chose d'autre que le roi, la Chambre des Lords et la Chambre des Communes, trouve une autre consistance institutionnelle. C'est peut-être pas très clair ce que je raconte là pour le moment, mais je vais essayer d'être un peu plus clair. Monsieur Bongois avait montré dans sa thèse, je crois, de manière assez convaincante, que les Américains, certes, ils n'ont pas voulu le régime mixte à la Adams, bien sûr, mais qu'en même temps, sur un fondement démocratique, il y avait plusieurs manières de représenter le peuple, la figure de l'un, la figure du petit nombre, la figure du grand nombre, que la représentation, ça pouvait épurer l'esprit public, disait-il, c'est-à-dire réintroduire de l'élitisme dans tout ça. C'est quand même assez convaincant. Bien sûr, c'est plus du tout les forces antérieures parce que le fondement est démocratique, mais c'est pas incompatible. Et je crois que, enfin, il me semble que dans la dynamique des institutions anglaises, il y a vraiment quelque chose comme ça dans le développement progressif du régime parlementaire. C'est-à-dire, Denis le disait tout à l'heure, Court Country, c'est pas tout à fait Nobility Gentry. Oui, ça, bien sûr, parce que ça change et ça bouge tout le temps. Et j'ai le sentiment qu'avec le développement de la responsabilité, qu'est-ce qu'on a ? On a des institutions du conflit qui vont se constituer, c'est-à-dire des institutions qu'on est susceptible de combattre et de remettre en cause. Ça va être les ministres, qui vont être une élite gouvernante nouvelle, élite gouvernante nouvelle parce qu'ils sont responsables à la différence des rois irresponsables. Ça va être, et Denis avait raison de l'exprimer tout à l'heure, leur soutien parlementaire au sein de la Chambre des communes, qui vont être une espèce de gentry gouvernante, en quelque sorte, liée à l'élite ministérielle par des liens d'ailleurs de nature très aristocratique. Je veux dire, c'est la majorité parlementaire, elle se constitue grâce aux pensions, grâce aux emplois affectifs, on pourrait dire, distribués par la couronne, mais c'est tout à fait ça. Alors, c'est la corruption, c'est abominable pour l'opposition, mais d'un autre point de vue, c'est une forme de ce que les Anglais appellent le bastard feudalism, c'est une forme de lien personnel, de type très typiquement aristocratique, me semble-t-il. Il y a un gage de la fidélité mutuelle entre, pas le suzerain et le vassal, mais d'une forme différente. Et puis en haut de tout ça, il va y avoir le Premier ministre qui va apparaître. Et le Premier ministre, en quelque sorte, c'est quoi ? C'est le roi qui peut mal faire. C'est une transposition de la figure monarchique. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant longtemps, on ne peut pas reconnaître qu'il existe. Walpole, en 1741, par exemple, on l'accuse d'être devenu sovereign prime minister. Il dit « Non, moi je ne suis pas Premier ministre, absolument pas. » Alors qu'à l'évidence, il l'est. Enfin bon. Il dit « Non, certainement pas. » Pourquoi il dit ça ? Je pense qu'il le dit parce qu'il aurait peur, sinon, qu'on lui dise « Tu usurpes la puissance royale. » Et donc j'ai le sentiment que cette évolution qu'on analyse généralement en termes de gouvernement parlementaire, rapport législatif et exécutif, au fond, c'est un gouvernement mixte en réduction, un gouvernement mixte responsable. C'est les mêmes figures, le roi, ou la transposition, le roi qui peut mal faire, l'élite supérieure qui est ministérielle, qui ne sait plus les lords, et la gentry gouvernante qui soutient le gouvernement. Et tout ça pour dire, j'ai le sentiment que, du coup, on peut peut-être considérer la question du gouvernement mixte, pas du tout sous l'angle, on part du sociologique pour voir si ça tient encore la route dans un cadre démocratique, mais plutôt sous un angle un peu inverse, c'est-à-dire est-ce que le gouvernement mixte en ce sens n'a pas eu une tendance à se dégager peu à peu de sa consistance sociologique initiale pour donner des formes purement institutionnelles, cette fois-ci, de diversité dans la représentation du peuple. Parce que le peuple, au fond, il peut être représenté de diverses manières. Il peut être représenté dans son unité, alors ça va être le chef d'État et la figure monarchique. Il peut être représenté comme majorité, ça va être la figure du Premier ministre. Il peut être représenté aussi comme minorité, ça va être l'opposition. Et je crois que là, il me semble que du 17e au 18e, la dualité nobility-gentry du départ, qui est encore valable, 1670 par exemple, la crise de l'exclusion, les communes ne veulent pas de Jacques II, enfin du futur Jacques II, et les lords veulent de Jacques II. Bon, on voit bien le clivage, se transforme petit à petit et va donner la dualité majorité-opposition après. Et à partir de ce moment-là, si elle fait ça, il me semble qu'elle devient pas, enfin qu'elle n'est plus incompatible avec la démocratie. Et que c'est peut-être ça un peu ce qui se passe. Mais bon, peut-être une interprétation à la limite du délirant.
Dans le temps qui nous reste, je voudrais savoir si la salle veut intervenir ou poser des questions. Il y a un représentant éminent de la salle qui est Sébastien Roland. La parole avec plaisir.
Merci beaucoup. Alors moi, j'ai essayé dans ma thèse d'appliquer la théorie du régime mixte à un objet là qui présentait l'expression, qui présentait le, que vous avez dit, Denis, dans une expression que je cite, et les circonstances politiques de gouvernement mixte, appliquées à l'Union européenne, qui est précisément, alors, n'est pas une entité souveraine, et qui n'est pas donc une démocratie. Et j'ai segmenté dans la deuxième partie de cette thèse, précisément, que l'Union européenne entend croiser trois principes de légitimité démocratique, intergouvernementale et intégrative. Alors, je crois qu'au-delà de cette application à cette forme, au régime particulier qui est l'Union européenne, je crois qu'effectivement c'est pertinent d'appliquer la théorie du régime mixte du gouvernement mixte au régime moderne. Je bien dit ce que disait Carlos pour finir. Effectivement, dans la démocratie contemporaine, le point d'application unique est le démos, mais ces formes d'institution, d'institutionnalisation du démos sont variables. La texture, en quelque sorte, démocratique est variable. Alors, je pensais à des phénomènes comme la gouvernance, comme les autorités administratives indépendantes, qui, d'une certaine manière, sont des formes modernes de démocratie. On pourrait penser également aux juges comme figure évidemment aristocratique, c'est très présent dans le débat contemporain. Je pensais même au lobbying, d'une certaine manière, pour être analysé en tout cas sous à l'aide de cette notion. Et puis, il y a peut-être aussi des éléments qui tiennent à l'organisation territoriale du pouvoir, dans la manière dont finalement, dans les États traditionnellement fédéraux, comme dans les États décentralisés d'aujourd'hui, finalement, on institue une représentation au niveau central des autorités locales. Alors peut-être sur la première partie, très rapidement, sur la première partie de l'intervention, ça n'a pas été présenté comme ça. Il me semble que pour moi, la théorie du gouvernement mixte, c'est une théorie qui porte sur le principe de légitimité, sur les principes de légitimité disponibles. Je crois que c'est ça. Et c'est donc la question... C'est une question qui concerne une configuration politique dans laquelle il n'y a pas de principe de légitimité unique, donc dans laquelle il existe une pluralité de principes de légitimité unique. Et je crois que du coup, ça permet peut-être de résoudre la question de l'articulation entre le social et politique. Et le politique, ce n'est pas nécessairement la théorie du gouvernement mixte, une théorie qui vise à instituer le social, mais je pense que c'est une théorie qui met en question... qui met en débat la question de l'assise sociale du pouvoir. Et je crois que c'est une manière pertinente de définir la théorie du gouvernement mixte en s'interrogeant sur précisément les principes de légitimité du système, qui suppose à un moment ou à un autre effectivement de s'interroger sur la résonance sociale. Et je crois que cette résonance sociale, elle n'est jamais parfaite précisément parce que dans la configuration même du gouvernement mixte, il y a une tension entre une pluralité de principes de légitimité disponibles, de sorte qu'aucun ne peut être en tant que tel institué dans le pouvoir. Donc pour moi, la théorie du gouvernement mixte, pour finir, c'est une théorie de la modération, mais c'est peut-être aussi surtout une théorie de l'indétermination. C'est peut-être une théorie de l'indétermination politique.
Est-ce que vous pensez, Sébastien, que la comitologie, c'est du gouvernement mixte?
La comitologie, oui. On l'aborde dans chez les spécialistes de droit de l'Union européenne sous l'angle technique, ça n'a pas grand intérêt. Moi, je le voyais comme une manière pour le Conseil, c'est-à-dire le pôle intergouvernemental de l'Union européenne, de contrôler l'exécution. J'avais fait un parallèle dans ma thèse avec ce que dit Montesquieu du contrôle du gouvernement par la Chambre des Lords et la Chambre des Communes. Il semblait que cette comitologie, c'est une manière pour le pôle intergouvernemental de contrôler le pôle intégratif qui est la Commission. J'étais un petit peu gêné parce que le Parlement européen lui n'intervenait pas, et puis au cours de la rédaction de ma thèse, précisément, on a créé un pouvoir de contrôle du Parlement européen dans le cadre de la comitologie, précisément. Donc je crois que ça rentre bien dans le schéma du régime mixte. Et oui, je peux peut-être une dernière chose. Il me semble que c'était pas forcément apparent dans la première partie des discussions. Il me semble qu'il faut opérer une césure entre la théorie du gouvernement mixte et la théorie de la séparation des pouvoirs. Ce sont deux choses radicalement différentes. Dans la théorie du régime mixte, c'est une théorie des principes de légitimité. La théorie de la séparation des pouvoirs, c'est une théorie qui est liée à la configuration organico-fonctionnelle du pouvoir dans l'État. Mais indépendamment, quelque sorte, de la question de l'assise légitime
d'autres observations, d'autres questions?
Bien, bah écoutez, tout ça a été extrêmement, extrêmement fécond. Je pense qu'on peut conclure en disant régime pur impossible, régime mixte impensable. Merci beaucoup à tous.